peut-être pour faire un dernier petit point général comme ça sur les pratiques culturelles, je vais en faire deux en fait, comme ça c'est à peine la discussion. Il y en a un qui est très central, alors vous connaissez peut-être, mais qui agite beaucoup les sociologues de la culture, ce que je ne suis pas moi, hein, mais qui est une sortie, reformulation de l'argument un peu fort de Bourdieu dans les années 70. Donc vous connaissez l'argument bourdieusien, c'est qu'il y a une forme spécifique du capital culturel qui devient même à côté du capital économique, hein, un des endroits où se produit des formes de domination, et une des dominations les plus essentielles dans les sociétés, parce qu'elle est encore moins visible que celle du capital économique, et qu'elle joue des formes de différenciation sociale qui sont extrêmement puissantes à l'école, dans la fréquentation des lieux culturels. Et du coup, l'argument de Bourdieu était de montrer qu'il y avait, et il a raison, à mon avis, ça reste toujours d'actualité, qu'il y a des formes hyper légitimes d'art qui sont liées à la constitution des champs d'avant-garde esthétique, et que ces champs vont rencontrer des publics qui ont eux-mêmes des habitus qui sont en conformité avec ces œuvres légitimes, et qui sont une sorte de hiérarchie culturelle. Mais la nouveauté qui a été apportée dans les années 2000 et qui est devenue très structurante et très vraie, hein, c'est qu'on a aujourd'hui le modèle qui s'appelle l'éclectisme culturel. Donc le grand argument des sociologues sur les pratiques culturelles et de sortie, qu'on doit à Peterson, et qui a été repris d'une certaine manière par Bernard Lahire, qui est un bourdieusien réformé, on pourrait dire, c'est de dire que les dominants, certes, écoutent Berg, Webern, et vont voir des spectacles de Castellucci, mais ils écoutent aussi Beyoncé, etc. Donc en fait, l'éclectisme culturel, on vit dans des sociétés dans lesquelles on a l'impression qu'il y a, du fait des produits culturels, des industries culturelles, une horizontalisation du modèle très vertical qu'avait produit Bourdieu. L'argument de Peterson et des autres, c'est de dire on a l'impression que ça s'est diffracté parce qu'effectivement, les grands bourgeois cultivés écoutent aussi Beyoncé. Mais les milieux populaires, ils écoutent Beyoncé, mais ils n'écoutent pas Berg et Webern. Hein. Et donc, en fait, il y a une sorte d'éclectisme qui est lié aux fabriques de cumul. Hein, c'est-à-dire que du fait de l'apparition des nouveaux écrans, de la consultation, de la culture à domicile, hein, je n'ai pas insisté beaucoup là-dessus, mais quand j'ai dit domicile tout à l'heure, c'est dire que les écrans, c'est l'équipement. Le domicile, à travers les écrans, est devenu l'équipement culturel majeur des Français. Hein. Et que on réfléchit à nos lieux culturels, toujours, mais le vrai équipement culturel aujourd'hui, c'est un mobile chez soi dans sa chambre. Hein. Et que donc tout ce qu'on peut faire passer par ce mobile, c'est un premier pas, enfin je crois, dans toute une série d'engagements qui peuvent devenir des activités et des pratiques culturelles. Mais simplement, c'est pas parce qu'on a le mobile qu'on entre dans des démarches d'appréhension des formes culturelles. C'est que il y a toujours des distributions sociales, et que ces distributions sociales vont répondre à cette loi de l'éclectisme culturel qui est devenue dominante. Et puis, la dernière chose, comme ça lancera un débat, c'est que moi, je suis très sensible à une très bonne amie sociologue qui s'appelle Dominique Pasquier, qui a beaucoup parlé, qui a produit pour le ministère de la Culture une très belle étude. Moi, je vous invite vraiment à aller regarder, lire ou discuter avec Dominique, hein, qui est sur la sortie théâtre. Et il y avait une très bonne question dans l'enquête d'Olivier Donat de Pratique culturelle, qui était: avec qui, lors de votre dernière sortie au cinéma, donc cinéma, musée, concert, spectacle vivant, avec qui vous étiez, voilà. Et elle a ensuite interviewé 80 personnes, puis elle a fait une enquête spécifique avec le public de Chaillot, qui a un dispositif particulier pour ça. Et elle ressort un truc qui, à mon avis, est important, parce qu'il renvoie à des pratiques numériques, on en dira un mot là, tout à l'heure, mais qui est qu'en fait, à la différence du musée, où on y va plus facilement seul au musée, le théâtre, on y va accompagné. Hein. Le nombre de personnes, hein, les seuls qui vont, en fait, ce que montrent les enquêtes, mais ça c'est classique, on n'a presque pas besoin de faire l'enquête pour savoir, les seuls qui vont au spectacle seuls sont les hyper-consommateurs cumulards dont je parlais tout à l'heure. Alors eux, ça ne les gêne pas d'y aller tout seul. Mais sinon, on va au spectacle accompagné. Hein. Et donc, il y a une logique extrêmement importante d'influence, hein, si on veut entrer dans les techniques de viralité, c'est avec qui on y va, qui nous a influencés, qui c'est qui nous est emmené, est-ce qu'on y va en étant tiré par la laisse, ce qui arrive dans certains couples, je raconte de façon très drôle Dominique Pasquier. Et avec qui on y va, et un des points de l'enquête qui est important, c'est qu'il y a une grande partie, c'est famille et couple. Hein, donc on voit bien que c'est une pratique qui est inscrite dans la vie domestique des individus. Mais pour le théâtre, pas que, et notamment, et c'est très surprenant les chiffres, hein, pour les femmes. C'est-à-dire qu'en fait, les hommes vont au théâtre avec leurs conjoints et leurs enfants. Mais, et c'est sans doute un point sensible, je pense, du public du spectacle vivant, les femmes y vont aussi, elles y vont avec leurs conjoints, avec leurs enfants, elles y vont aussi pour des chiffres très importants, qui sont forts quand elles sont jeunes et très forts à partir de 45-50 ans, avec des amis. Hein. Et donc, il y a quelque chose d'une sociabilité dans la sortie vers le spectacle vivant qui renvoie, alors je ne veux pas faire d'écho trop massif avec un sorte de coup de pied comme ça, parce que c'est. Mais à la forme réseau social. Hein. C'est-à-dire que finalement, celui qui est prescripteur ou celui qui va être initiateur d'un moteur vers un déplacement vers un lieu culturel, ça peut être quelqu'un de la sociabilité qui est ces petits groupes d'amis. Hein. Alors, ce n'est pas des grands groupes, ce n'est pas des comités d'entreprise qui viennent avec les. Enfin, vous connaissez ça beaucoup mieux que moi, qui viennent avec des cars et qui amènent tout le monde. C'est des groupes entre 4 et 7. Hein, et c'est des petits groupes où il y a quelqu'un qui est leader, hein, qui prend les abonnements et qui vérifie avec les autres, etc. Et qui aussi tire les autres par la main, et les autres font une sorte de confiance absolue en disant bah, si elle a choisi, etc. Il y a cette chose essentielle de la sortie théâtre, hein, qui ressort de toutes les études, qui est que on préfère y aller en groupe et on préfère y aller avec les copains ou les copines. Parce que si le spectacle est raté, on sait qu'après il y a le repas, on va récupérer, on va pouvoir contrebalancer, au moins on va discuter avec nos amis. Et ça joue quelque chose autour de la sociabilité et du spectacle, qui est, alors voilà, comme ça je vais m'arrêter pour envoyer là-bas, qui à mon avis renvoie quand même assez à des logiques de communication qui passent par l'idée de l'influence du réseau social, de la prescription amicale dans les circuits du théâtre. Voilà. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous avez des expériences ou envie de commenter ou de poser des choses.